Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Avez-vous remarqué, il existe une réalité étrange. Notre culture a intégré presque comme une simple réalité culturelle l'image d'un homme cloué à une croix, comme s'il nous était devenu naturel de voir sur des tableaux ou sur des places publiques l'image d'un homme pendu ou d'un condamné à la chaise électrique. Pourtant, au milieu de cette indifférence, il y a des personnes qui, elles, ne se remettent pas du choc de cette image et vont même jusqu'à passer leur vie à la contempler. Mon invité de ce matin en est une. Cette émission Vivante Église ce matin donc avec Serge Thomas Bonino, auteur d'un ouvrage « Il m'a aimé et s'est livré pour moi » paru aux éditions Parole et Silence. Le père Serge Thomas Bonino est probablement connu de certains de nos auditeurs puisqu'il a été dominicain ici longtemps à Toulouse. Il est secrétaire général de la Commission théologique internationale et président de l'Académie pontificale de Saint Thomas d'Aquin à Rome. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc de passage à Toulouse, semble-t-il, annuellement maintenant, pour donner des cours. Et on profite de votre passage donc pour une émission, je vous le disais en souriant en préparant cette émission, un peu aux couleurs de pré-carême, donc sur cet entretien sur le Rédempteur en sa passion, que vous avez publié il y a quelques années déjà, qui est une compilation, si j'ai bien compris, de retraites que vous avez données. Alors, comme vous venez de Rome, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous poser quelques questions. Avez-vous eu des échos des JMJ de Panama et la vie romaine a-t-elle été teintée pendant quelques jours de la joie de ces JMJ?
Alors, les JMJ viennent à peine de se terminer, si je puis dire, et je pense avoir quitté Rome avant le retour du Saint-Père. Évidemment, Rome vit au diapason de la vie du Saint-Père, de sorte que son absence, sa mission au Panama marque toujours l'Église de Rome qui prie aux intentions du Saint-Père, qui l'accompagne. Mais je ne pourrais pas donner davantage d'informations puisque j'attends de retourner à Rome pour avoir plus d'échos.
Alors, si on se plonge dans votre livre, à propos de la passion, vous commencez quasiment votre ouvrage de la manière suivante. Vous citez une anecdote donc de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, une anecdote ou un moment de grâce qui est probablement pas connu de grand monde. C'est une fois où elle se rend dans une sacristie, si je ne me trompe pas, et elle tombe sur une statue qu'elle avait l'habitude de voir. Et là, elle vit quelque chose de singulier. Racontez-nous cette histoire.
Oui, Sainte Thérèse d'Avila passe devant une statue qui représente le Christ à la colonne, c'est-à-dire le Christ dans le mystère de sa flagellation. Probablement avait-elle vu à plusieurs reprises cette œuvre d'art, mais ce jour-là, une sorte de grâce spéciale l'a saisie et elle perçoit profondément, du plus profond de son âme, ce que signifie cette statue, à savoir une image de ce trop grand amour dont le Christ nous a aimés. Le mystère de la passion, qu'il soit représenté à travers une crucifixion ou à travers la flagellation ou tout autre épisode de la passion du Christ, est comme un signe visible de l'amour du Christ, donc un sacrement en quelque sorte. De sorte que la vision de cette statue provoque en elle une sorte de choc psychologique. Comment ne pas aimer celui qui m'a tant aimé? Ce que Saint Bernard appelait dans son latin la redamatio, c'est-à-dire rendre amour pour amour. Mais en même temps, il faut bien comprendre que ce choc psychologique face à la passion n'est pas le tout. Beaucoup ont vu le Christ dans sa passion, beaucoup voient des crucifix, tout le monde n'est pas converti. C'est-à-dire il faut que cette vision extérieure s'accompagne d'une grâce intérieure qui ouvre le cœur à comprendre le message de la croix, le message de la passion. De telle sorte que cette grâce intérieure est déjà un effet de la passion.
Alors, est-ce à dire que c'est une grâce qu'il faut demander
Absolument.
Parce que, comme je le disais en introduction, on peut passer presque sa vie, alors quand on n'est pas spécialement chrétien, en fait, à passer devant des crucifix sans se rendre compte, voire même parfois quand on est chrétien, sans à un moment rentrer pleinement en entrevoyant quelque chose du mystère de la Passion.
Tout à fait, comme toutes les grâces, il faut évidemment se tourner vers le Christ et lui demander de nous donner cette intelligence de son propre mystère, de nous donner l'Esprit Saint. Et on voit très bien dans le récit de la Passion, dans l'Évangile selon saint Jean, que au moment où s'accomplit le don que le Christ fait de sa propre vie, son côté est transpercé et il en jaillit du sang et de l'eau, hein, ce que l'Église a toujours compris comme le don de l'Esprit Saint, le don des sacrements, le don de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre la Passion. C'est-à-dire il faut s'exposer à ce cœur ouvert, il faut en recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le mystère de la croix.
Alors si on avance, donc pour cette émission un peu en forme de pré-carême, vous continuez un petit peu plus tard, donc j'ai picoré au long de cet ouvrage qui, est, comme je le disais, est une compilation de différentes retraites, des choses sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez pour essayer de mieux comprendre ou comprendre un petit peu plus ce qu'est la Passion. À un moment, vous faites tout un développement sur la sagesse inversée qu'est la Passion. Vous dites entre autres la chose suivante, il faut bien se remettre en tête que pour les apôtres, cette passion fut d'abord un cauchemar. Pour ceux qui, comme les disciples, l'ont vécu en direct, la passion a d'abord été un vrai cauchemar. Et après, vous faites une méditation sur ce qu'est la vraie sagesse. Réagissez peut-être, on oublie parfois que cette passion pour les disciples a été un cauchemar.
Oui, c'est-à-dire que si le Seigneur nous avait demandé, ce qu'à Dieu ne plaise, comment il fallait sauver le monde, très probablement, nous n'aurions pas choisi le chemin de la Passion et de la croix du Christ. Notre sagesse humaine aurait imaginé d'autres moyens. La sagesse de Dieu, la sagesse, c'est-à-dire la manière dont il dispose des moyens pour arriver à une fin, et cette fin, c'est notre salut, notre vie éternelle, notre bonheur, tout cela passe par la croix du Christ, et ça a été un scandale. Saint Paul dit la parole de la croix est un scandale pour ceux qui cherchent la sagesse à vue humaine, à savoir les Grecs, et un scandale peut-être encore plus grand pour ceux qui, comme les Juifs, cherchaient une manifestation de puissance, attendaient un Messie glorieux, un Messie victorieux. Donc, cette manifestation de l'amour de Dieu à travers l'humiliation de la croix est quelque chose qui désarçonne notre raison humaine et même désarçonne la foi. Mais, comme on le voit dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, par exemple, petit à petit, on comprend les raisons profondes pour lesquelles il fallait, c'est le terme qu'utilise l'évangile de Saint-Luc, un terme très fort, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire, Et à ce moment-là, il y a, chez les disciples d'Emmaüs, mais chez tout croyant, il y a un déclic qui se fait, on se dit « oui Seigneur, tu as choisi le moyen qui nous permet d'entrer vraiment dans ta vie, qui nous permet d'entrer vraiment dans la réalité. »
Vous avez cette phrase, à un moment où vous dites « le propre du sage est de percevoir l'ordre dans le désordre apparent ». Est-ce que vous pouvez commenter ce passage ?
Bien, c'est-à-dire que le sage essaie de saisir l'unité. L'ordre, qu'est-ce que c'est sinon l'unité qui se manifeste dans une diversité. Alors on a l'impression, dans la vie de Jésus, ou surtout dans sa passion, que tout part dans tous les sens, que le Christ ne maîtrise plus rien, que Dieu est absent. Mais en réalité, le sage va être capable de voir, à travers ce qui semble une déroute, la réalisation du projet de Dieu. Et non seulement le sage, mais celui qui participe à cette sagesse. On pense évidemment à la Vierge Marie qui se tient au pied de la croix et qui essaie d'entrer dans ce mystère, même s'il est absolument déroutant et incompréhensible.
Est-ce que c'est ça aussi le propre de la vie chrétienne, quand il est dit qu'il faut apprendre en fait à penser de manière nouvelle et à voir la réalité autrement ? Est-ce que c'est quelque part C'est la clé, de la passion qu'il faut arriver à appliquer à tout le réel et à toute chose après.
Oui, c'est-à-dire que la manière dont Dieu a réalisé notre salut à travers la Pâque de Jésus, c'est-à-dire sa passion, mais aussi sa résurrection. Hein. Il ne faut jamais séparer, évidemment, le mystère de la passion, le mystère de la résurrection. Et vraiment, ce qui nous révèle qui est Dieu, sa manière d'agir et la manière dont il entend nous attirer à lui. Hein. « Quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai tout à moi », dit Jésus. Donc, nous avons, nous, à sortir de notre petite sagesse pour contempler, regarder la manière dont Dieu agit, hein, et comment il agit en particulier à travers le mystère pascal du Christ, pour reproduire ensuite dans notre propre vie cette sagesse
et qui s'est manifestée. Et si vous deviez la résumer, cette sagesse, ça serait quoi en fait ? Ça serait que Dieu manifeste que c'est dans la faiblesse et dans l'amour ultime que
c'est dans l'amour, hein, c'est-à-dire que la charité est la clé du mystère chrétien, puisque la passion est avant tout un mystère de charité, avant même d'être un mystère de faiblesse. De charité, parce que c'est la manifestation de l'amour du Père qui nous donne son Fils. Hein. La charité, parce que c'est la manifestation de l'amour du Christ, hein, qui librement, sous l'action de l'Esprit-Saint, offre sa vie pour nous. Donc, c'est cette logique de l'amour, du don de soi, hein, qui n'est pas une logique spontanée. Hein, l'être humain n'est pas porté spontanément à cette offrande de soi, mais c'est cette logique-là qui est fondamentale, logique de la charité, logique de la foi, hein, puisque il y a cette confiance fondamentale que en se livrant à Dieu, on est en de bonnes mains.
J'aimerais, avant qu'on fasse une première pause, que vous faire réagir sur un autre passage de votre livre. Donc, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi », entretien sur le Rédempteur en sa passion, paru aux éditions Parole et Silence. À un moment, vous avez cette expression, vous laissez entendre que Jésus serait un peu le Dieu du dehors. Alors, j'exagère un petit peu parce que vous ne l'écrivez pas comme tel, mais vous dites la chose suivante, « En sa passion même, Jésus a été traîné hors de la ville sainte, loin de la cité où Dieu avait établi sa demeure. » Et puis vous ajoutez, n'est-ce pas déjà dehors, dans la campagne, que Caïn, l'homicide, avait attiré Abel pour le mettre à mort. Est-ce que ça vous va, cette expression « Jésus, un peu le Dieu du dehors » ?
Oui, c'est-à-dire il faut l'entendre dans l'ensemble du mystère de la Passion. Dans la Passion, le Christ assume, prend sur lui notre nature, notre condition de pécheur. Et on le voit très bien dans le début de l'évangile, hein, lorsque on retrace la généalogie de Jésus. Jésus, dans sa généalogie, dans son ADN, il reprend toutes les misères, tout ce que l'humanité comporte de beauté et aussi de faiblesse. Et donc, un des effets de notre condition humaine, pécheresse, suite, on le voit dans le récit du péché des origines, hein, au chapitre 3 de la Genèse, c'est que Adam a été expulsé loin de Dieu, a été chassé du jardin. Et donc c'est à l'extérieur que Jésus vient nous chercher. Hein. Il s'identifie à l'homme pécheur, il s'identifie à l'homme qui a été expulsé hors de la ville, hors de la présence de Dieu, non pas pour y rester, mais pour nous y saisir et pour nous ramener dans la communion avec Dieu. Et donc c'est en ce sens que le Seigneur Jésus a été crucifié hors de la ville, hein, au sens où l'homme est hors de la communion avec Dieu, mais par l'offrande que le Christ fait de sa propre vie, il nous réintègre dans la communion avec Dieu. Hein.
J'avais peut-être une dernière question avant cette première pause. Comment vous réagissez à l'introduction que j'ai faite quand je dis qu'on finit par s'habituer, en fait, presque culturellement, à voir ce signe de folie, hein, à vous entendre, ça n'est pas de l'ordre, enfin, l'ordre naturel de la sagesse humaine, et que si Jésus, si le Christ était représenté autrement en sa passion, comme le font parfois certains artistes, ça nous ferait un électrochoc. Est-ce que l'homme, le dominicain que vous êtes, le théologien, parfois s'étonne de cette étrange habitude culturelle?
Oui, bah, l'habitude, la proximité du mystère fait que s'émousse le sens du mystère. Hein. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus trop jouer sur la corde sensible. Il y a des représentations de la passion. Pensez par exemple au Christ de Grunewald, Christ tout à fait défiguré, torturé, qui omettent de replacer la passion dans la lumière de la résurrection. Hein, il faut prendre le mystère de la passion et de la résurrection comme un ensemble.
Mais c'est pourtant justement une telle image qui a touché Sainte Thérèse d'Avila, pour en revenir au début de notre introduction.
La statue
qu'elle a contemplée était, semble-t-il, assez trash, comme on dit aujourd'hui.
Oui, certainement. Hein. Mais le choc que provoque cette vision n'est que le début d'un processus. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas, évidemment, rester à une vision de la passion qui serait simplement une manifestation de cruauté ou de quelque chose de sanguinaire, bien entendu, cet aspect est absolument présent. Mais en même temps, nous ne pouvons pas faire comme si nous vivions la passion nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons le recul que donne la foi, hein, et c'est pour ça qu'on peut avoir aussi des représentations du crucifié qui sont très paisibles, très apaisées. Je crois qu'il faut garder cet équilibre, hein, il faut garder l'idée que la passion est un cauchemar, hein, essayer de s'en rendre compte, mais aussi ne pas jouer comme si nous étions à la place des apôtres qui sont confrontés de plein fouet. Nous avons reçu l'esprit que le Christ nous a mérité, et par cet esprit nous regardons la passion d'un autre œil, si je puis dire.
Voilà, on va faire une première pause. Je rappelle le titre de votre livre pour cette émission de Pré-Carême. Il m'a aimé, s'est livré pour moi, paru aux éditions Parole et Silence. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons entre autres de la fameuse théorie de la substitution, de la question de la satisfaction. Voilà des choses qu'on a pu entendre ou qu'on peut entendre parfois. Le Christ aurait payé le prix, aurait satisfait une certaine justice. Qu'en est-il ? On va profiter d'avoir un théologien émérite ici à notre plateau pour lui poser ces quelques questions.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Il m'a aimé et s'est livré pour moi, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce jour, et celui du livre du Père Serge Thomas Bonino, avec comme sous-titre « Entretien sur le Rédempteur en sa passion » paru aux éditions Parole et Silence. On profite du passage du père Serge Thomas Bonino, qui est secrétaire général de la Commission théologique internationale à Rome et président de l'Académie pontificale de Saint Thomas d'Aquin, pour cette émission, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, un peu de pré-carême, de méditation autour de la passion, l'un des ouvrages qu'il a publié, en tout cas c'est celui qu'on a choisi. J'aimerais dans cette deuxième partie vous poser quelques questions, je pense que c'est des questions qui ont traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous, à la faveur de quelques célébrations religieuses ou de choses entendues, si on est moins pratiquant. Entre autres, cette fameuse, on va commencer par ça, cette fameuse théorie de la substitution, comme si Jésus avait souffert à la place, comme s'il avait payé, comme s'il avait souffert à la place des pauvres hommes et femmes que nous sommes. Vous prenez pour essayer de rentrer dans cette théorie une image tirée d'une bande dessinée célèbre d'Uderzo et Goscinny, Zizani. Racontez-nous pourquoi cette image.
Bien, elle est extrêmement expressive d'une certaine...
Racontez l'image déjà pour commencer.
Donc cette image présente le village gaulois que nous connaissons bien. Le vieillard bien connu, Ashkanonyx, donne un coup de canne sur le pied du forgeron. Et le forgeron se tourne aussitôt vers son ami et ennemi, le poissonnier, pour lui asséner un redoutable direct du droit. Alors le poissonnier dit « Mais moi, j'ai rien fait. » Et le forgeron répond « Mais j'allais tout de même pas taper sur ce vieux débris en montrant Ashkanonyx. » Et celui-ci répond « Je veux qu'on me tape dessus. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le fond du problème, c'est un problème extrêmement important en théologie, c'est comment le Christ a opéré notre salut. En quoi le fait que le Christ ait souffert la passion nous a libérés du péché et nous a ouvert la vie éternelle. Le credo confesse qu'il est mort pour nous les hommes et pour notre salut. Qu'est-ce que ça veut dire « il est mort pour nous » ? Une interprétation qui est assez répandue dans les milieux fondamentalistes, spécialement les milieux évangéliques, consiste à dire que le Christ a souffert, a payé à notre place, et que maintenant nous sommes quittes. Il a, par sa passion, payé le prix de notre désobéissance, de notre péché, et nous, sans avoir rien à faire, eh bien, il nous suffit de venir toucher les dividendes. Cette vision est absolument fausse.
Attention, on a des évangéliques qui nous écoutent. Hein, donc,
oui, mais je ne prétends pas que tous les évangéliques tiennent cette position, mais c'est une position qui, et d'ailleurs, je le dis pour consoler les évangéliques, c'est une position qui a été aussi prêchée dans l'Église catholique, même si elle n'a jamais été, disons, l'opinion la plus commune. Alors c'est une vision simpliste, pourquoi ? Premièrement, parce que le Christ est innocent. Donc le Christ ne peut pas être puni pour quelque chose qu'il n'a pas commis.
On ne punit que les coupables, dites-vous dans votre livre.
On ne punit que les coupables. D'autre part, ça véhicule une image de Dieu qui n'est pas juste. On imagine un Dieu qui a, disons, un capital de colère, il doit le décharger de quelque manière, un petit peu comme notre forgeron, il faut qu'il tape sur quelqu'un pour se défouler. Alors il ne peut pas taper sur cette pauvre humanité, alors il choisit de taper sur le Christ. Bon, c'est une vision odieuse de Dieu. Et enfin, la dernière raison, c'est que dans ce scénario, nous sommes sauvés sans avoir absolument rien à faire. Or, la foi chrétienne, me semble-t-il, nous dit que si le Christ a offert sa vie pour nous, c'est pour que nous puissions, à notre tour, offrir notre vie pour Dieu et pour nos frères. De sorte que il n'y a pas de passivité, en ce sens que, bien sûr, c'est le Christ qui a ouvert le chemin. Si le Christ ne nous avait pas obtenu la grâce de l'Esprit-Saint à travers sa passion, jamais nous n'aurions pu marcher à sa suite et faire de notre vie une offrande à Dieu et à nos frères. Mais la passion du Christ n'a pas pour but de nous dispenser de la conversion, mais de nous permettre de nous convertir et de faire de notre vie une œuvre de charité.
Et donc, si on devait remplacer le mot substitution par un autre, quel serait le bon mot ?
C'est-à-dire, le mot fondamental, c'est celui de solidarité. Le Christ s'est fait solidaire des pécheurs et il nous donne ensuite de participer au mystère de sa passion. Je crois que le terme de participation serait le plus adapté.
Alors, dans un autre passage donc, de votre livre, hein, compilation donc, de différentes retraites, vous parlez aussi de la satisfaction. La satisfaction, si je l'ai bien compris, et puis je vous laisserai l'expliquer davantage, c'est aussi un peu l'idée qui traîne parfois de manière insidieuse ou réelle, la mort du Christ en croix, la mort de Jésus en croix, ça serait une manière de satisfaire justement la justice divine. Comment faut-il comprendre cette notion de satisfaction ? Déjà, commençons peut-être. Quelle idée en a-t-on, en fait, quand on parle souvent de satisfaction ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ?
Alors, satisfaction est une notion tout à fait importante. Hein, dans la théologie catholique, c'est un petit peu la clé du mystère de la rédemption. Mais il s'agit de bien la comprendre. Hein. L'idée qui traîne, c'est que Dieu était fâché avec nous. Et donc, il fallait que nous fassions quelque chose d'un peu extraordinaire, en particulier que nous nous humilions, que nous abaissions, et le Christ l'a fait pour nous, et à partir de ce moment-là, Dieu a accepté de se réconcilier avec nous. Ça, c'est une vision absolument fausse. Absolument fausse parce que c'est parce que Dieu nous aime et veut nous réconcilier avec lui qu'il nous a donné le Christ. C'est pas ce qu'a fait le Christ qui a provoqué l'amour de Dieu.
Et là, vous jouez pas un peu sur les mots, non ?
Non.
Quelle est la réexpliquer davantage dans ces cas-là ? Quelle est la différence fondamentale ?
La différence fondamentale, c'est que est-ce que l'amour de Dieu pour nous est provoqué par ce que le Christ a fait sur la croix, par la satisfaction que le Christ a offert sur la croix, ou bien est-ce que la satisfaction que le Christ a offert sur la croix est l'effet de l'amour de Dieu ? C'est parce que Dieu nous réconcilie avec lui qu'il nous donne dans le Christ la possibilité, non pas de provoquer son amour il y est déjà, mais qu'il nous donne la possibilité de réparer nos péchés. Parce que ça, c'est le désir profond hein, de toute personne qui a offensé un ami. Hein. Bien sûr, cet ami nous rend son amitié. Cet ami n'exige pas quelque chose pour nous rendre son amitié. Mais une fois qu'il nous a rendu son amitié, nous voulons faire quelque chose pour lui. Nous voulons réparer, nous voulons lui rendre justice en quelque sorte.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer davantage ? Donc, vous répondez donc à cette question de la satisfaction dans votre livre, comme vous venez de le faire, en disant « La satisfaction est une œuvre pénale qui vise à rétablir l'ordre. » Et puis, vous ajoutez « La satisfaction est un acte d'amour qui s'incarne dans une œuvre de réparation. » Expliquez-nous un peu ces deux jambes.
Alors, c'est-à-dire, il faut distinguer la satisfaction de la peine ou du châtiment en tant que tel. La peine ou le châtiment est quelque chose de subi, hein, quelque chose qui nous est imposé. Tandis que la satisfaction, c'est une œuvre d'amour. C'est-à-dire, c'est parce que nous aimons une personne que nous avons blessé, que nous avons offensé, que nous voulons faire quelque chose pour, en quelque sorte, réparer autant que faire se peut. Mais ce qui est fondamental, et on ne se lassera pas de le redire, c'est que l'amour de Dieu pour nous, le fait que Dieu nous rende son amitié, n'est pas lié à la satisfaction. Mais au contraire, c'est parce que Dieu nous a rendu son amour dans le Christ que nous sommes devenus capables, ce qui est notre désir profond, de réparer, de faire quelque chose pour confirmer, pour approfondir cette réconciliation avec Dieu. Et ce quelque chose, c'est un acte de justice, une réparation, subir une peine, etc.
Alors, un peu plus loin dans votre ouvrage, vous citez le vieux Lapeyrouse et vous dites la chose suivante, je me permets de le dire parce que vous le dites et vous le citez, « Le diable et le bon Dieu ne font qu'un, ils s'entendent. Et savez-vous ce qu'il y a de plus horrible, c'est de sacrifier son propre fils pour nous sauver. Son fils !» s'exclame Lapeyrouse. Comment peut-il y avoir, Père Serge Thomas Bonino, en Dieu cette apparente logique, en fait, qu'une il faudrait qu'il se satisfasse lui-même en se pénalisant lui-même ou en pénalisant son fils et en permettant qu'il vive une chose aussi horrible. On a l'impression que cette logique n'est pas la sagesse que vous décriviez au début de l'émission.
Il ne s'agit absolument pas pour Dieu de se satisfaire lui-même. Dieu n'a pas besoin de notre satisfaction. Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu aurait très bien pu nous pardonner sans rien nous demander. Mais pardonner sans rien demander, c'est humilier. Or, Dieu a voulu que nous puissions participer, que nous puissions en quelque sorte faire quelque chose pour montrer notre désir de conversion, notre désir de réparation par rapport au péché que nous avions commis.
Mais en l'occurrence, on n'a pas fait grand-chose. Quelqu'un l'a vécu.
C'est-à-dire, le Christ l'a vécu pour nous rendre capables de le vivre. C'est ce que dit saint Paul, par exemple. Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est-à-dire, non pas ce qui manque objectivement, mais chaque chrétien est appelé à vivre sa propre vie, et spécialement les difficultés de sa propre vie, en union avec le Christ, ce qui donne un sens à tout ce que nous avons à subir, qui peut être extrêmement pénible. Mais c'est un grand aspect de la spiritualité chrétienne de dire que les misères de cette vie, nous les vivons en union avec la passion du Christ.
Alors comment est-ce que vous répondez, quelle est la fine pointe de votre réponse, dans cet ouvrage, en tout cas vous en avez une, à cette interpellation terrible de Lapeyrouse, le diable et le bon Dieu ne font qu'un, ils s'entendent, et savez-vous ce qu'il y a de plus horrible, c'est de sacrifier son propre fils.
Alors, je répondrai que il faut se référer à une image que les pères aimaient beaucoup, c'est que la passion du Christ est préfigurée par le sacrifice d'Abraham. Et lorsque la Bible nous parle du sacrifice d'Abraham, on nous dit qu'Abraham et son fils Isaac marchaient côte à côte, marchaient de concert. C'est-à-dire que le Christ n'a pas été obligé, si je puis dire, par son Père, de subir la passion. Le Christ a volontairement offert sa vie pour nous, et c'est animé par la charité qu'il a posé cet acte de don de soi. De sorte que ce que le Père veut ou a demandé à son Fils, c'est ce qu'il y a de mieux pour son Fils. Du moment où on considère que le plus bel acte qu'un être humain puisse poser, c'est de donner sa vie. Le Père n'a pas voulu la cruauté de ceux qui ont pris la vie du Christ, mais il a aimé, il a voulu ce don de soi qui est la forme la plus haute que peut prendre la charité.
Voilà, ça ne laisse pas en tout cas sans de quoi méditer, particulièrement probablement quand on est père de famille, quand vous avez donc cette interrogation en forme de conclusion, de réponse à cette question cette apostrophe de Lapeyrouse, le don de soi n'est-il pas l'accomplissement de la vocation de la personne humaine? J'aurais une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est sur la question de la compassion. On dit, et vous le dites aussi dans votre livre, que, et certains pères de l'Église donc l'ont dit avant vous, que Dieu aurait pu s'y prendre autrement, il aurait pu nous sauver même sans la passion, sans que le Christ souffre sa passion. Et qu'il y aurait dans la passion aussi l'intention de rejoindre profondément tout homme, de manifester la compassion infinie de Dieu. Mais vous mettez en garde un moment dans votre livre sur une certaine dérive justement de cette notion de la compassion où la souffrance finit par avoir presque un statut quasi divin. Expliquez-nous ça.
C'est-à-dire que il y a une théorie, une doctrine théologique qui a tendance à se répandre, qui consiste à dire que le salut est opéré par le fait que Le Christ a souffert avec nous, plus que pour nous. Et que même le Père souffre avec nous. Outre les difficultés que pose la question d'une souffrance en Dieu, qui est loin d'être une idée évidente pour la théologie catholique, il y a cette idée que le simple fait de la compassion serait efficace pour le salut, ce qui n'est pas juste. Ce dont nous avons besoin, c'est pas simplement d'un Dieu, si je puis dire, qui pleure avec nous, mais nous avons besoin d'un Dieu qui nous arrache au mal. Un Dieu qui est vraiment le créateur du ciel et de la terre et qui est capable donc de recréer non seulement notre cœur, mais le salut chrétien, c'est le salut intégral, c'est-à-dire la résurrection. Un Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est capable de nous arracher au mal, qui est capable de nous recréer pleinement corps et âme. Donc, pas simplement...
Donc la juste compréhension de la compassion, quelle est-elle ?
La compassion, c'est une compassion efficace, c'est-à-dire c'est une compassion, quand Dieu, on dit que Dieu est compati, ça veut dire qu'il nous donne réellement de quoi nous transformer pour nous arracher au mal. C'est pas simplement une compassion au sens où Dieu serait affecté avec nous sans qu'il agisse de quelque manière. La compassion, c'est le fait que Dieu, par amour, par miséricorde, agit réellement en nous transformant d'abord spirituellement en cette vie et en nous transformant pleinement par la résurrection glorieuse.
Il m'a aimé et s'est livré pour moi, c'est donc le titre d'un de vos livres, celui sur lequel donc on se penche ce matin, paru aux éditions Parole et Silence. On vous retrouve tout de suite après cette deuxième pause musicale.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Il m'a aimé et s'est livré pour moi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, et pour rappel également pour ceux qui nous rejoindraient, le titre du livre du père Serge Thomas Bonino, dominicain, de passage à Toulouse, paru aux éditions Parole et Silence, le père Serge Thomas Bonino étant entre autres secrétaire général de la Commission théologique internationale. C'est quoi la Commission théologique internationale? J'ai oublié de vous poser la question au début de l'émission. Ce sont des grands
organismes qui a été créé par le pape Paul VI au lendemain du concile, à la demande du synode des évêques. Il s'agissait de mettre au service de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est composée essentiellement de professeurs romains, avec le risque d'étroitesse que peut comporter cette...
Romain, ça veut dire italien ou pas forcément?
Non, ça veut dire enseignant dans les universités romaines, hein, donc pas forcément des Italiens, mais enfin, c'est beaucoup plus large. Et donc, les pères synodaux et le pape Paul VI ont souhaité faire contribuer l'ensemble des théologiens catholiques à ce qui se fait à Rome au service de l'enseignement de la foi. De sorte que la Commission théologique internationale réunit 30 théologiens qui viennent, de l'Australie, qui du Congo et d'autres d'Europe, etc., pour traiter un certain nombre de questions théologiques au service du Saint-Siège et au service de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Et en quelques mots, vous pouvez prendre un exemple d'une question que vous traitez en ce moment ?
Alors, on traite toujours trois questions de front, et donc nous avons publié l'an dernier, malheureusement la traduction française n'est pas encore disponible, un document important sur la synodalité, hein, c'est un thème dont on parle beaucoup, mais dont il fallait essayer de poser quelques fondements proprement théologiques. Devrait être approuvé, parce qu'il faut d'abord l'approbation du Saint-Père avant de publier un document, mais devrait être approuvé dans les semaines qui viennent un document sur la liberté religieuse, hein, les nouveaux problèmes qui se posent à la liberté religieuse depuis le Concile, puisque le contexte a beaucoup changé. Et ensuite, un document qui nous donne beaucoup de fil à retordre sur foi et sacrement, et en particulier la question très difficile du degré de foi nécessaire pour la validité du sacrement de mariage, hein, puisque un des gros problèmes actuels de la théologie du mariage, c'est que beaucoup demandent le mariage sans avoir conscience qu'il s'agit d'un sacrement. Est-ce que ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à la vie chrétienne?
Voilà, on vous réinvitera quand vous serez à nouveau de passage à Toulouse. On fera une émission découverte des coulisses, on va dire, de Rome, et puis peut-être d'activité sur l'activité de cette commission, même si nombre d'entre nous n'ont peut-être pas les armes pour tout saisir. J'aimerais qu'on finisse cette émission, cette émission, comme je l'ai dit de nombreuses reprises, en forme de pré-carême, sur une figure dont vous parler dans votre livre, ce livre de compilation, donc de méditation autour de la passion, du père Vessière. Racontez-nous en quelques mots qui est ce père et pourquoi vous l'avez choisi.
Je l'ai choisi parce que la passion, comme son nom l'indique, implique une certaine passivité. Hein. Dans la passion, le Christ se laisse faire, il se laisse conduire, il se laisse arrêter, bien. Et il se laisse faire par les hommes, il se laisse faire par Dieu. La parole du Christ sur la croix, qui m'a toujours profondément marqué, c'est « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Un acte de confiance totale, radicale. Et c'est à cet acte que nous devons, d'une certaine manière, arriver. Nous avons toute notre vie pour nous préparer à dire « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Et c'est pas facile parce que nous préférons gérer nous-mêmes nos affaires. Or, le père Vessières est un dominicain qui a vécu, disons, au milieu du XXe siècle. Et qui a été confronté à ce grand mystère de la passivité et d'une passivité qui conduit à la sainteté. C'est-à-dire, c'était un dominicain, si je puis dire, normal, qui dans sa jeunesse s'est enthousiasmé pour tout ce qui peut enthousiasmer un dominicain, l'étude, la prédication, la vie commune, mais qui a été brutalement frappé par une maladie dont il est difficile de préciser la nature, mais enfin qui en tout cas l'a réduit à l'impuissance. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas prêcher, il ne pouvait pas étudier, etc. C'est évidemment pour nous pour qui la vie signifie d'abord l'activité et quelque chose de terrible. Il a traversé des moments absolument redoutables et il a compris que ce qui comptait vraiment, c'était de se tenir dans la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas permis que je puisse prêcher, que je puisse enseigner, que je puisse mener pleinement la vie commune, je l'accepte paisiblement. Une sorte de renoncement lié à la passion qui fait que cet homme qui était considéré comme un inutile, quelqu'un qui ne sert à rien, qui ne fait rien, est devenu une lumière. Il a été gardien de la grotte de la Sainte-Baume en Provence, un haut lieu de la spiritualité provençale. Et à partir de ce lieu, simplement par sa présence, par sa prière, par les conseils qu'il a pu donner, et puis par cette totale disponibilité à la volonté de Dieu, le père Vessières a réconforté beaucoup de chrétiens, beaucoup d'âmes qui cherchaient Dieu, etc. Donc c'est un exemple magnifique de la manière dont l'acceptation d'une certaine impuissance, loin de mettre un terme à notre existence, l'oriente vers l'essentiel. Parce que le père Vessières a été dépouillé de tout. Tout ce qui semble faire l'intérêt d'une vie, l'activité, le rayonnement immédiat, tout cela lui a été enlevé. Et ça l'a obligé à se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel.
Alors, vous avez une phrase dans votre livre, vous dites que Dieu, lorsqu'il est condamné à passer par un goulet étroit, s'y concentre en quelque sorte ses forces. Il y concentre en quelque sorte ses forces et il y jaillit avec d'autant plus de vigueur. Est-ce que vous pouvez commenter ce qui peut sembler de prime abord, là aussi, comme les remarques que vous avez pu faire lors de la précédente partie de cette émission, de prime abord un peu cruel. On se dit, quel est ce Dieu, en fait, qui a besoin de goulets étroits pour y concentrer ses forces et y laisser jaillir sa vigueur et sa lumière?
Alors, il s'agit de la personne humaine qui doit passer par le goulet, non pas de Dieu. Mais, voyez, il faut partir de la pédagogie de Dieu telle qu'elle se manifeste dans la Bible, dans l'Écriture sainte. J'ai souvenir d'un cours d'Écriture sainte où mon professeur disait « En Israël, quand tout va bien, tout va mal. » C'est-à-dire, quand Israël est prospère, quand Israël n'a pas d'ennemis, quand Israël vit dans une certaine abondance et sécurité, il abandonne systématiquement Dieu. Et c'est dans les moments où Israël perd ses repères, l'exil à Babylone ou toute autre expérience de ce type-là, qu'il se tourne vers Dieu. Et cette manière de faire, nous en avons l'expérience quotidienne. C'est-à-dire, quand tout va bien, notre tendance, c'est à gérer par nous-mêmes notre vie. Quand nous commençons à rencontrer des difficultés, des impuissances, alors nous sommes contraints de nous centrer sur ce qui est vraiment important. et nous sommes contraints de nous tourner vers Dieu, de nous tourner pour demander l'aide des autres, etc. Et c'est ça que j'ai voulu signifier par cette image du ruisseau, si vous voulez. Un ruisseau qui n'a pas de limite, qui n'a pas de rive, devient un marécage. Il a tendance à se perdre, à se diffuser. Tandis que quand il est obligé de se concentrer, il retrouve en quelque sorte une certaine force. Alors entendons-nous, je pense qu'il ne serait pas sain pour un chrétien de rechercher systématiquement les épreuves, le dépouillement, mais il reste que c'est la vie humaine qui nous conduit à ces limitations, qui nous conduit à ces impuissances. Ces impuissances ne sont pas la fin du chemin. Ces impuissances, comme le père Vessière l'a montré, peuvent être l'occasion précisément, en ayant perdu tout l'accessoire, de se centrer et de vivre vraiment l'essentiel.
Dans les 2 minutes qui nous restent, j'aimerais que vous nous parliez de la figure de Pierre. Dans cette méditation que vous faites sur ces fameux goulets étroits par lesquels Dieu passe, vous parlez aussi de Pierre et vous dites que c'est sur le roc de son humilité inébranlable que Jésus a bâti son Église. Expliquez-nous ça.
Mais ce n'était pas gagné d'avance, parce que, voyez, les réactions de Pierre face à l'annonce de la passion, c'est « Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Pour Saint-Pierre, ça n'entrait absolument pas dans ces catégories. Et quand la passion se présente, nous avons cette phrase étonnante de Pierre, enfin tout à fait humaine, compréhensible, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi ». Et là, Saint-Pierre s'est trompé. Il a oublié que c'est le Christ qui donne sa vie pour nous, afin qu'ensuite, nous soyons capables de donner notre vie pour lui. Et donc, il y a, dans la réaction de Saint-Pierre, encore une forme d'orgueil, de dire, c'est moi qui vais offrir quelque chose au Christ, je vais donner ma vie pour toi. Et Jésus lui dit non. Et le fait que Pierre est trahi est le signe que, de sa propre initiative, Pierre ne pouvait pas aller bien loin. Mais une fois que le Christ est ressuscité, une fois que le Christ, par sa passion, nous a mérité le don de l'Esprit Saint, alors Pierre est devenu capable de répondre à sa vocation et de donner sa vie pour le Christ. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas nous qui faisons un cadeau au Christ, c'est le Christ qui nous prend dans son propre mystère, qui nous associe à sa passion et à l'offrande de sa vie.
Voilà, et c'est une belle manière, si je puis me permettre, et je ne me jette pas des fleurs en disant ça, en tout cas une manière opportune de finir cette émission, puisque vous êtes d'une certaine manière au service directement du successeur de Pierre, qui est le pape François, Père Serge Thomas Bonino. Donc, je rappelle, vous êtes à Rome, et entre autres secrétaire général de la Commission théologique internationale, auteur donc de cet ouvrage, entre autres aussi, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi, entretien sur le Rédempteur en sa passion » aux éditions Paroles et silence. Merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Présence. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.